Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport, dernière heure avec Julien Beneteau, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux, Pascal Duprat. Beaucoup de messages sur le WhatsApp, 06 12 424 424. Après, les GG remontent le temps il y a quelques instants sur la victoire des Bleus face aux Blacks en 99. Simon nous dit, j'avais 10 ans, c'est un match que je n'oublierai jamais, hors du temps. Le match qui m'a fait aimer ce sport profondément. Ben voilà, comme le disait Pascal tout à l'heure. Ah, il y a quelques Madeleines de Proust, hein, parfois, quand on remet comme ça au bout du jour dans les grandes gueules. C'est aussi pour ça qu'on fait cette séquence.
Ça fait du bien de se remémorer. Ben ouais. C'est très bon moment pour le sport français.
On se remet,
nous rajeunit en plus, nous. Ou ça nous vieillit, ce qu'on dit. Ah ouais, j'avais 19 piges.
C'est ça. Christophe nous dit, j'étais déjà un monument de l'antenne.
Et Bennett a dit quand même qu'il était déjà à l'époque au tiers de sa carrière.
Dans un instant, on va continuer de parler de rugby, les GG sur le buzzer. Le produit Dupont prend-il plus de place que le joueur, alors qu'il y a eu une grosse mise en scène hier pour annoncer sa prolongation à la mi-temps de Stade Toulousain à Stade Français. Et puis en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un smartphone Stellar X5S édition Chamonix Mont-Blanc, le nouveau smartphone outdoor de la marque française Crosscall. Pour emporter votre smartphone Crosscall, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'est cette déclaration. Écoutez bien, de Egan Bernal, vous savez, le Colombien vainqueur du Tour de France en 2019. Il a 28 ans aujourd'hui, court toujours pour l'équipe Ineos Grenadier. Et comme tout le peloton, il subit en ce moment la tyrannie de Tadej Pogacar. Voilà ce qu'il a déclaré cette semaine à un média en Colombie. Pogacar, je le cite, est d'un autre niveau. Quand on court contre lui, il nous fait souvent passer pour des nuls. Franchement, on entend ça quand même assez rarement, surtout de la part d'un champion qui a gagné le Tour de France. Les GG, aujourd'hui, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. Comment accepter de ne pas être le meilleur alors que vous avez tous été certainement, à un moment donné, le meilleur dans vos catégories d'âge ensuite...
Tu parles des champions, là.
Je parle des champions.
Le meilleur dans ta catégorie à la fois d'âge
T'as commencé France-Nouvelle-Zélande en 99 avec Albana Dejo. Pour moi, c'est le meilleur. Hein.
T'es encore en 2029, tu vois, donc
t'es mon meilleur.
Très longtemps.
Comment accepter de ne pas être le meilleur, Jérôme? C'est un sujet qui t'a touché, toi, dans ta carrière?
Moi, j'ai toujours été le meilleur.
Ça, le mec a un melon.
Non, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Moi, on en parlait l'autre jour quand on a préparé l'émission. Je suis numéro 1 français en 99. Je passe professionnel en 2002. Je gagne des cours. Je progresse chaque année. Tout le monde me disait, tu vas voir chez les pros.
T'es numéro 1 français chez les jeunes ou chez...
En 2001, ouais. D'accord. Chez les jeunes. Ouais. Pas en 2001, vélo d'or français, numéro 1 français. Ouais. En espoir. Tu vois. Et après, Et après 2002-2003, je fais le Tour de France, je suis néo pro, je fais deuxième d'une étape, je me dis ça, finalement c'est que ça, tu vois, tu te dis ça va le faire.
Et franchis les obstacles assez facilement.
Okay. Et en 2004, je fais un super Tour de France, l'épopée Vauclair, la première. On se dit que tout est possible, on prépare des choses. Et 2005, paf, plafond de verre, ça y est, j'y suis, je suis au max de ce que je peux être. Et là, faut l'accepter.
Mais comment tu t'en rends compte?
Dépression. Parce que tu dis, je vais pas gagner, en fait, je sais. Parce qu'en montagne, il y a des lacunes. Parce qu'en chrono, il y a des lacunes. Parce que je suis pas managé de la meilleure des façons. Parce que j'en ai, t'es un bon père de famille, mais je mets pas les choses en place pour qu'on progresse vraiment. Et puis, physiquement, je le sais.
Individuellement, tu ne progressais plus. Si, je sais pas comment on peut dire.
Non, j'étais très loin de ce qui se faisait de mieux, en fait. Et la marge, j'avais 25 ans, je préparais les choses comme il faut. À l'entraînement, je mettais les charges de travail qu'il fallait pour mon âge à cette époque. Et je plafonnais, si tu veux. Alors, il y avait évidemment dans un cyclisme particulier à l'époque. Je m'en suis aussi rendu compte. Et si bien que c'est l'année de la création du World Tour, il faut faire du World Tour. Donc, nous, avec Bouygues Télécom à l'époque, Jean-René prend la licence et on se retrouve que dans des courses de très, très haut niveau. Il n'y a plus la Coupe de France où à l'époque, j'y allais en me disant, j'aime refaire, je fais au moins podium ou dans les 5 premiers. C'était à peu près ça. Là, j'avais plus ça. Et pendant une année, j'ai passé une année à me faire taper dessus. Et ça a été très, très compliqué.
Dépression.
Clairement, en 2005, j'ai dit, j'ai réfléchi à arrêter le vélo. J'avais un contrat en cours et j'en avais parlé la journée. Je dis, si c'est ça, j'arrête en fait. Ça sert à rien.
Parce que quand t'es gamin, quand t'es meilleur jeune français, t'as l'espoir de remporter le Tour, de remporter les grandes classiques.
Pas remporter le Tour de France, mais on me dit que je peux éventuellement viser un top 5-10 un jour. Bah, t'es numéro 1 français, t'as des qualités de grimpeur. Tu te dis qu'avec des progrès en chrono et des entraîneurs, tout est professionnel. Tu te dis, bah pourquoi pas, en fait, ces gens-là connaissent mieux que moi. Est-ce qu'ils y sont déjà?
Oui, bah, parce que toute ta jeunesse, t'es le meilleur. C'est-à-dire que tu gagnes.
France.
Non, mais évidemment, mais tu fais des courses en minime, en benjamin, en cadet, tu mets tout le monde.
La particularité que j'ai, moi, c'est que je commence le vélo à 17 ans. J'ai pas fait minime cadet.
Ah ouais.
J'ai commencé le vélo en junior première année, en deuxième année j'étais en équipe de France, en troisième année je suis rentré au Vendée U et 4 ans après avoir commencé j'étais
une ascension fulgurante.
Le mec il enlève les petites roulettes à 16 ans. Il est mort en français. Attends, c'est quoi ce parcours atypique?
Je sais pas ce que c'était que ce parcours, mais à mon avis
Pascal, ça te parle toi quand on entend ton discours?
Ouais, mais en fait moi très vite j'ai compris que j'allais pas être le meilleur joueur, mais bon, c'est différent. Vous êtes de sport individuel. Moi, je suis dans un sport collectif. Moi, mon parcours, je le décris très vite. Un papa ancien footballeur. Je suis dans une famille qui ne met aucune pression. Je fais du foot parce que j'adore ça. Je rêve avec mes copains, quand je joue dans la cour d'école, de gagner la Coupe du Monde. Enfin, la trajectoire, on va dire, lambda du gamin qui aime ce sport-là. Et puis, j'ai 13 ans. Je fais une bonne performance. Il y a un concours qui s'appelle le concours jeune footballeur. Je finis 7e national, premier de la Ligue Rhône-Alpes. Enfin bref, je joue dans un tout petit club.
T'es dans les cadors quand même quand tu.
Oui, et puis ensuite là, je me rappelle les réunions familiales quand il y avait quelque chose d'important, les quatre, ma sœur, mes parents. Et là, mes parents me convoquent un soir avant le dîner. Et mon père sort tout un tas de lettres. C'était tous les clubs professionnels qui voulaient m'accueillir dans leur centre de formation. Donc à 14 ans, en 76, je pars au centre de formation du FC Sochaux. Donc c'est le balbutiement des centres de formation. C'est ouvert en 74. Le FC Sochaux est
C'était avec l'élite des jeunes à l'époque.
Ah ouais,
c'était un super club.
Donc championnat de France cadet. Je joue au milieu de terrain offensif, ailier gauche. Je marque beaucoup de buts. Je me balade. Moi, j'ai commencé à jouer en pro à 17 ans.
Tu as des rêves?
Je pense que.
Tu penses à l'équipe de France, voilà, tout ça.
Ouais, parce que je suis aussi sélectionné chez les gamins en France, tout ça.
Et donc, en plus, on est dans ces moments-là, Pascal, tu confirmes, on se met pas de limite, on est jeune.
Zéro limite.
On va tout péter, quoi.
C'est pas paraître présomptueux de dire ça, mais c'est.
C'est pas prétentieux de dire ça, c'est. Évidemment,
tu t'arraches. Et moi, à mon époque, il faut aussi que je précise ça, quand je dis pas de pression familiale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont la pression. Familiale parce que c'est l'ascenseur social. Ouais. Moi, je venais d'une famille bien, donc j'avais pas zéro pression, si vous voulez. Simplement celle que je me mettais.
On t'a pas programmé à être le meilleur. C'était juste ton ambition, ton rêve.
Parce que très vite, si vous voulez, j'ai commencé à jouer en pro. Puis après, j'ai fait quelques mauvais choix. J'ai envoyé chier le directeur sportif du FC Sochaux qui me traitait mal à l'époque. Ok, donc on rebondit à Brest en D1 également. Enfin bref, mais très vite, malgré tout, moi, il est apparu chez moi mes limites physiologiques. C'est-à-dire que j'avais une petite caisse. Donc moi, à l'heure de jeu, j'étais capot contré, souvent, et j'ai subi des blessures. Donc très vite, j'étais très bon footballeur, encore une fois, mais très vite, j'ai compris que j'allais pas être... pour moi, l'équipe de France, c'était pas promis. Malgré tout, zéro dépression, j'ai fait une honnête carrière, bonne carrière, je me suis régalé. Et si vous voulez, le fait de pas avoir... on va dire confirmer peut-être ce que j'espérais gamin.
Dans le regard des autres, t'as une jeunesse, on t'imagine devenir une star du football français, dans les yeux de ton père, par exemple, qui était dans le milieu, quand il comprend que tu vas pas être Platini.
Il sait que je vais être professionnel.
Les parents, c'est le cap, être professionnel.
Ouais, voilà,
c'est déjà une grande
les sacrifices. Parce que très honnêtement, les sacrifices, le centre de formation en 76, tu rentres deux fois chez toi par an, hein.
Ouais, c'est ce que tu disais.
Donc, attention, c'est, c'est chaud, hein.
C'est chaud, hein.
Pas de FaceTime,
chaud, c'est chaud.
Tu mets pas des visios avec la maison, hein.
Ouais, ça existe, ça existe pas. Donc, t'as pas de portable, t'as rien du tout. Et puis, quand tu sors des jupons de ta mère, tu vas au centre de formation, directeur du centre de formation, Pierre Tournier, exceptionnel personnage. Mais quand t'arrives, il dit, à partir de maintenant, c'est moi le père. Donc, tu te dis, mais où je suis tombé, tu vois? Et bah, tu te forges ton caractère, tu fais ton honnête carrière, et puis, sans forfanterie, bah, t'es content de ce que t'as fait, même si tu sais que t'as pas été le meilleur joueur de France ou du monde.
C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le vestiaire. Comment accepter de ne pas être le meilleur, Bennett? Toi, t'avais des rêves aussi d'être d'être numéro un mondial.
Ouais, quand t'es petit, c'est ça, t'as les rêves du tennisman, c'est être numéro mondial, gagner un tournoi de Grand Chelem.
T'as été le meilleur de ton club.
Moi, ça a été plus dur que chez les jeunes, parce que moi, j'ai été le meilleur en France quand j'avais 10 ou 11 ans. J'étais en équipe de France jusqu'à 13 ans. Et après, de 13 à 17 ans, 18 ans, j'étais dans le deuxième wagon. C'est-à-dire qu'il y en avait 4-5 en France qui étaient meilleurs que moi. Et moi, j'étais un petit peu derrière.
C'était qui la concurrence?
Paul-Henri Mathieu, il est entre guillemets un an de moins. On a 3 semaines d'écart, mais au niveau des licences sportives.
Ouais, oui, c'est un an de moins.
Il a un an de moins. Donc lui, il était le plus fort. Il était le plus fort. Il avait un an d'avance chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il était le meilleur de France des joueurs nés en 82 et également des 81. L'entraîneur, à un moment donné, moi j'étais à l'INSEP, il est l'entraîneur de Corée Gauff aujourd'hui, Jean-Christophe Forel. Il a été en équipe de France des moins de 16 ans.
Donc là, tu vois déjà des gens te passer devant.
Bien sûr.
Et donc être là, meilleur que toi.
Et en fait, quand t'es jeune, c'est difficile parce que t'es pas du tout armé, préparé, t'es dans la préadolescence, voire dans l'adolescence, t'as la concurrence qui peut être malsaine, dans un sport individuel, où tu vis avec les mecs, tu t'entraînes avec les mecs. Nous, on était à l'INSEP à ce moment-là, la majorité, mais en même temps, t'es en concurrence, et t'es dans une période de ta vie, entre guillemets, où t'es en train de te former à tous les niveaux, et t'as ça à gérer. Et ça, c'est il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des moments où de tristesse parce que avant d'arriver à l'INSEP, c'était pas aussi dur que ce que dit Pascal sur le centre de formation de Sochaux, mais moi je suis parti de chez moi, j'avais 11 ans et demi, j'étais en 5e. On rentrait une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines au Krebs de Poitiers. T'es une chambre individuelle à 12 ans au milieu de la forêt.
Ça calme quand même.
Déjà Poitiers, c'est pas simple.
T'as pas de portable.
À l'époque Poitiers ou Sochaux, j'hésite.
C'est pareil, à l'époque il y a pas de portable. T'as les toilettes et les douches au bout du couloir qui sont collectives. T'as un téléphone.
Là, donc tu fais des sacrifices pour tout ça. Énorme. Pour au final te dire, je suis pas le meilleur.
Non, mais tes parents aussi. C'est-à-dire que tes parents, comme dit Pascal, tes parents confient, te laissent. Te laissent le 2 septembre.
Et donc toi, tu t'obliges, tu te dis, je dois être le meilleur. Si on
non, parce que tu t'en rends pas compte. Parce que là, moi, à ce moment-là, c'est mon rêve, etc. Mais quand j'en parle avec ma maman, je lui dis, mais comment t'as pu me laisser partir? Elle m'a dit, mais tu ne rêvais que de ça. Mais elle me dit, mais t'inquiète pas. Hein. Pendant 4 ans ou 5 ans, j'ai pleuré tous les jours 5 minutes. Ça me faisait du bien. Mais elle me l'a jamais dit. Elle me l'a dit il y a 5 ans, 7 ans.
Si elle te le dit, tu rentres.
Mais bien sûr. Elle me dit, ça me faisait du bien. J'étais toute seule dans mon bureau, j'avais ta photo. Mais c'est normal. Tu laisses un petit garçon de 12 ans le 2 septembre et tu dois faire 450 km le soir même, rentrer à Bourg-en-Bresse. Mais mon père, il m'a dit, le soir, on t'a laissé. Et on a roulé une demi-heure, on s'est arrêté sur la route.
Qu'est-ce qu'on a fait?
Exactement, qu'est-ce qu'on a fait?
Ils ont failli faire demi-tour.
Non. Et là, après, parce qu'ils sentent que t'as une passion, parce qu'ils sentent que t'as un rêve, parce qu'ils te confient à des personnes. Et c'est là où le rôle des éducateurs, parce que c'est des entraîneurs, d'accord, mais ce sont des formateurs, des éducateurs, les gens qui récupèrent.
C'est des rôles prépondérants.
Mais exactement, prépondérant. Et nous, à l'époque, à la Fédération Française de Tennis, on avait des vraies figures emblématiques qui, à la fois tennistiquement et au niveau des valeurs
et humainement,
tenaient la route. Et je pense que petit à petit, on a un petit peu perdu ça, des figures incarnantes où les parents peuvent faire confiance.
Comment accepter de ne pas être le meilleur? C'est la question qu'on se pose.
On a un point commun avec ça, les garçons, si vous pouvez aussi confirmer ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant de vouloir être le meilleur, on veut être professionnel.
Ouais.
Moi, je voulais être professionnel. je voulais faire de ma passion mon métier. Avant d'être le meilleur dans mon sport, je voulais d'abord passer ce cap-là de.
T'as jamais voulu
de
devenir Bernard Hinault?
Je voulais être footballeur professionnel avant.
Ah oui, toi, tu voulais
avant
être
ça.
Oui,
ah, je me rappelle que gamin, dans les fiches qu'au collège, on me disait quel métier tu veux faire plus tard. Je m'étais sportif professionnel.
Alors, moi, je m'étais tennisman professionnel. C'est marrant.
Et moi, je m'étais sportif professionnel.
En CM2, on a retrouvé, il y avait un article dans le Progrès, et le petit Julien Beneteau qui joue au foot à Bourg-Péronna et qui joue au tennis en même temps, et il dit. Et j'avais dit tennisman professionnel, tu vois, c'était ça la.
Et je pense que l'acceptation de ne pas être le meilleur, il est quand même assoupli par le fait que t'es quand même au plus haut niveau.
Non, mais quand t'as cet âge-là, quand même, en plus, tu peux vite prendre la grosse tête. Quand tu bats tout le monde dans les tournois, tu bats tout le monde dans les courses. Il faut aussi savoir gérer le boulard de 14 ou 15 ans.
Exactement. Mais alors, c'est vrai que c'est. Je sais pas si dans les autres sports ça existe, mais au tennis, tu le vois. Parce que à 14 ans, 15 ans, 16 ans.
L'équipementier qui arrive, t'as commencé à avoir les premiers contrats.
Ah, bah toi, t'as pas le contrat.
T'as pas le même polo.
T'as
ton vélo, toi.
Exactement. Parce que les polos, nous, on peut citer une marque.
J'en donne deux autres, mais vas-y.
Une marque américaine à la virgule.
La virgule la plus connue du monde.
Quand t'étais chez les jeunes et que t'avais un contrat.
Si t'étais là, c'était bien.
Mais il y avait deux types de contrats. Il y avait le contrat international et le contrat national.
Bien sûr.
Et les tenues étaient différentes. Donc, on le voyait, à l'époque, il y avait la virgule sur la manche,
et dans l'autre.
Sur la manche, et un petit carré avec la petite virgule à l'intérieur sur la poitrine. Et le contrat international, c'était l'inverse. Et le carré des. Et donc, nous, on le voyait.
En fait, tu identifies très bien qui sont les meilleurs.
Et voilà.
Regarde, je te montre que je suis le meilleur.
Et ça te donne un statut.
Bien sûr.
Et là, ça, tu le portes tout le temps. Alors, à la cantine.
Et c'est incroyable. et toi, t'es là et tu te dis. Putain, mais j'ai envie d'avoir comme lui, le mec reçoit les cartons à l'INSEP, etc. Et j'ai envie d'avoir ça, bien sûr.
Moi, ce qui m'intéresse, les amis, aussi, c'est dans votre confrontation, comme le dit Egan Bernal, il dit, on court contre Pogacar, il nous fait passer pour des nuls. Bennett, t'as joué contre les trois monstres du tennis de l'histoire, peut-être Federer, Nadal et Djokovic. J'ai tes stats sous les yeux. T'as affronté 8 fois Federer, t'as gagné 2 fois à Paris, à Rotterdam. T'as affronté 4 fois Nadal, tu l'as battu 1 fois. T'as affronté 7 fois Djoko, tu l'as battu 1 fois.
Djoko Nadal, ça compte pas.
Mais alors Djoko Nadal, justement, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu les bats au tout début, en fait, quand ils sont jeunes, et après tu ne les bats plus quand ils deviennent très forts.
Non.
Comment t'acceptes ça, en fait? C'est-à-dire que tu rentres sur le terrain, ces mecs-là, tu sais qu'à un moment donné, ils sont arrivés à un niveau.
Demande à Gasquet.
Où ils sont plus battables. C'est quoi? Il y a une acceptation, il y a un renoncement.
Nadal, je me suis jamais dit ça, et pour une seule raison, c'est que je l'ai jamais joué sur terre battue, et encore moins à Roland Garros, qui pour moi était le défi ultime du tennis. En revanche, j'ai joué Nadal à Cincinnati, il était numéro 2 ou numéro 1 mondial, et je savais que je pouvais le battre. Et j'ai eu balle de match, j'ai perdu en 3-7. Et Djokovic, pareil. Alors Djokovic, c'est l'évolution la plus incroyable, parce que quand je le bats en 2006 à Indian Wells, si on me dit que 10 ans plus tard, en 2016, mais même pas parce qu'il était numéro 1 en 2009 ou 2010, mais si on me dit que 10 ans plus tard, il a 12 grands chelems, il va titiller Federer.
T'y crois pas.
J'y crois pas.
Donc du coup, t'es pas écrasé par son niveau de l'époque.
À l'époque, quand je le bats, sa deuxième balle de service et son coup droit, ce sont des vraies faiblesses. Ce sont des vraies faiblesses. Et Djokovic, là où c'est dur.
Après, je le joue
dans 2 ou 3 circonstances où je joue très bien, où je suis en forme. Et je prends 2 branlées monumentales. Je le joue en quart de finale à Indian Wells. Et je sors d'un tournoi où j'ai battu Dominic Thiem, Joe Tsonga, Feliciano Lopez. Donc des mecs qui savent jouer au tennis. Et j'arrive en quart contre lui. Et je prends 2 et 3. Et j'ai l'impression que lui joue au ping-pong. Il est sur sa ligne de fond. Et que moi, je suis un faire-valoir.
C'est très difficile.
Très dur. Et une autre année à l'US Open, il me met 3-7.
Mais alors comment t'acceptes ça? Tu dis, je le battrai plus, ce mec.
Je me souviens.
Il joue pas le sport que moi. Je suis pas invité.
Contre Djokovic sur dur à son prime, j'y arrivais pas. J'avais pas les armes. J'étais pas invité. Alors que Federer,
c'est dur à accepter parce qu'il jouait trop vite.
C'est un sport du duel. Donc il y a des styles de jeu. Il y a des trucs où tu te dis, allez, je peux. Federer, je le bats une première fois. Il est numéro 1. Il n'était pas dans la forme de sa vie, mais j'y arrive. Quand je le rejoue après, je me dis OK, c'est possible. Donc j'ai réussi à le refaire une fois et une autre fois.
Les confrontations dans le cyclisme, elles n'existent pas, sauf si tu te retrouves en one-to-one échappé. Moi, j'ai fait ce genre d'acceptation est difficile. J'ai fait des courses, trophée des grimpeurs à l'époque en région parisienne. j'étais supérieur ou égal à Philippe Gilbert, par
Philippe
exemple.
Philippe Gilbert, Courbet, était champion du monde.
Et énormément 2006, arrivé à Cadouda, la Plumelec, étape du tour. Premier Valverde, deuxième Gilbert, troisième Pinot. Tu te dis, je suis dans le jeu, quoi. Et le mec, après, il gagne des classiques, il gagne Lombardie, les champions du monde. Et toi, tu restes là. Et ça, c'est dur. Mais ça, c'est dur à accepter. Ça, c'est très dur à accepter.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette... Parce que c'est vrai qu'en plus, je trouve que dans le vélo, il y a un truc... C'est pour ça que Bernal le dit, je pense, et que c'est fort. Il y a un truc un peu humiliant dans le vélo. Le mec, il te dépose.
Surtout,
il
Bernal a gagné le Tour de France,
lui. Tu ne peux pas le rattraper.
Oui, non, mais il te lâche.
Cette image-là, elle est dure. Je ne le suivrai jamais, ce mec.
Tu ne peux pas le suivre. C'est humiliant. Bah oui, tu te fais... Le mec, il te lâche. Alors toi, tu l'as fait subir aux autres avant. T'étais le plus fort.
À la pédale,
et
en fait.
Et d'un coup, à la pédale, tu... Voilà, c'est ça. C'est l'expression la plus utilisée dans le vélo, c'est « Ah, il a pété à la pédale ». D'ailleurs,
Bernal n'a plus jamais été le même après son accident.
Bien sûr, mais c'est dur à accepter.
Egan n'a pas dominé le vélo comme domine Tadej Pogacar aujourd'hui. Il était le meilleur coureur de son époque, à une époque, mais il n'était pas ultra dominateur.
À un moment donné, Bernal, on pensait qu'il allait gagner le Tour de France, avant son accident.
Et Pascal, dans cette thématique, comment accepter de ne pas être le meilleur?
Moi, c'est noyé dans le collectif.
Non, mais même après aussi, en tant que coach, alors, t'as pas entraîné le Paris Saint-Germain ou Real Madrid, des équipes dominantes?
Alors ça,
des équipes
si
dominantes,
j'ai pas...
C'est dur à accepter aussi parfois alors, tu sais que tu vas faire un championnat, tu ne seras pas champion, par exemple.
Oui, mais néanmoins, ça ne m'a pas empêché de battre le Paris Saint-Germain version Qatar de nombreuses reprises avec mes petites équipes. Si t'aimes mieux. Mais cela dit, si j'ai pas de regrets sur tout ce que j'ai accompli en tant que joueur et entraîneur, si je peux en avoir qu'un seul, c'est de ne pas avoir eu la chance. Avec mes qualités d'entraîneur, d'entraîner un club de meilleur standing que ceux que j'ai entraînés. Par exemple, aujourd'hui, je voudrais bien entraîner Rennes, moi, tu vois. Tu vois, mais
voilà,
attends, 17h15, il y a Pino qui va t'appeler.
Non, mais tu vois, je voudrais bien entraîner un groupe de conséquents que j'ai choisi, un club avec des moyens.
Là, tu vois, j'aurais,
voilà. Mais encore une fois, c'est, il n'y a pas d'envie dans ce que je dis,
Je suis
pas envieux.
Moi, j'ai managé une équipe aussi après, et le sentiment, il n'est pas le même quand même. Quand tu es athlète et quand tu es, dans le staff et à diriger, c'est pas le même. Tu peux pas avoir le même.
Quand t'es retenu pour le Tour de France, quand t'es sélectionné,
et ému aux larmes pour diverses raisons. Mais je sais que j'y vais pas pour aller gagner le Tour, quoi. Je sais que je vais être moins bon, avec moins de budget, avec des coureurs moins forts. Tu sais que tu vas. Tu sais
oui,
que
mais
tu
moi, vas, je me souviens avoir eu des discussions avec toi, Jérôme. Tu imaginais quand même des choses grandioses avec ton équipe.
Mais pas avec l'équipe qui s'est présentée sur le tour.
Non, mais
pas
tu vois, parce qu'elle était en construction, là.
C'est la démarche qu'on avait fait il y a 4 ans pour pouvoir passer un grand cap et aller enfin jouer avec les meilleurs. C'est pour ça qu'on s'était associé à l'époque sur des belles paroles avec certains grands partenaires et une grande ville. Il nous l'a mis à l'envers, je vous le raconterai plus.
Allez, on referme la porte de votre vestiaire. Comment accepter de ne pas être le meilleur? C'était encore passionnant de vous écouter.
Nous fais replonger dans des souvenirs. Là,
vous vous rendez compte quand même.
On a pris des coups dans la tronche dans cette émission.
Attendez, je veux rappeler aux auditeurs quand même, sans me le raconter. Hein. On a quand même un coach qui a battu le Paris Saint-Germain version Qatar. On a un coureur qui a été numéro 1 français.
Vélo
et
d'or.
On a un vélo d'or carrément. Et on a un ancien joueur de tennis qui a tapé Federer, Djokovic.
Je laisse.
Voilà. Et on a un commentateur qui a commenté un match des légendes.
C'est le seul trophée que j'ai à la maison. C'est le dernier, c'est le seul et unique trophée que j'ai chez moi.
Bah, t'as de la chance, moi j'en ai pas de trophée, tu vois.
On va voir si on n'a pas dans les archives quand même le commentaire de Christophe Cessieu des combats de Marcel Cerdan en boxe.
Georges Carpentier.
Christophe au Tour de France, c'est quelque chose, messieurs.
Bien sûr, je le sais très bien. Tiens, je vous rappelle que vous pouvez. On va voir si vous acceptez de ne pas être le meilleur tout à l'heure au jeu du sport.
D'émission. J'aurais pas pu être sportif. Je ne supporte pas de perdre.
Vous pouvez aléatoire dans
Christophe qui a gagné hier.
Un bon thème sur le côté mauvais joueur. Mauvais perdant et tout ça.
T'as gagné avec Marion hier?
Si tu as fait du sport de haut niveau, tu peux pas être un bon perdant. C'est impossible.
Même quand t'es pas un sportif de haut niveau.
Dans ta catégorie, dans ton job, tu veux toujours être partie des meilleurs.
Christophe, tu as gagné avec Mario Bartoli hier.
Marion de Uno avec mon fils qui est sportif. Ils veulent pas perdre. Tu veux pas perdre. Ben c'est marrant.
Aujourd'hui dans les jeux, si vous participez avec les GGG, vous pouvez gagner un smartphone Stellar X5S édition. édition Chamonix-Mont-Blanc de la marque Cross Call. Pour participer, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Pascal et Bennett, j'espère que vous avez écouté hier. Il y a désormais une différence, hein. Une petite nouveauté.
Ah bon, c'est quoi?
Il y a une question, impossible à activer.
À laquelle, évidemment, Denis Charvet.
Il a échoué à 300 points.
La question, c'est le nombre de points dans l'année, c'est voilà, ça.
C'était Stade Toulousain. Combien de points marqués par le Stade Toulousain l'année dernière?
C'est impossible.
À 10 points près.
C'est la question impossible.
C'est la question impossible. Si tu seul un joueur pour l'activer. Si tu l'actives, c'est 2 points pour ton équipe. Si tu fais une mauvaise réponse, c'est moins un point.
Mais la question impossible, ça devrait t'offrir la victoire directement, en fait. Est-ce que c'est des questions
on va y réfléchir.
Sauf que tu la prends à 32 et à 33, c'est fini.
Allez, on revient dans un instant, les amis, les GG sur le buzzer. On va parler d'Antoine Dupont. Le produit Dupont prend-il plus de passes que le joueur? Il y a une belle mise en scène hier pour sa prolongation au Stade Toulousain. On revient dans quelques instants. On vous attend au 32-16. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Julien Beneteau, Pascal Dupraz, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Tiens, j'ai un message de Hervé sur WhatsApp 06 12 424 424 qui nous dit on t'attend à Rennes, Pascal. Welcome. Pour prendre la suite, pourquoi pas. Rennes Strasbourg, je rappelle, à 15h.
Même la galette saucisse.
Attention, Big Day peut-être en difficulté. Hein, donc peut avoir du taf à prendre. Il s'agit, si tu reçois un message de Pinault,
ouais, j'ai bien fait de dire ça.
Peut-être Jérôme Pinault, hein, pas la famille Pinault.
Alors si c'est que Jérôme Pinault qui choisis, je te mets à Rennes de suite, moi, Pascal. Bah oui,
t'es
pourquoi
gentil,
Pascal Dupraz ne pourrait pas entraîner Rennes alors qu'Abib Bey entraîne Rennes? Je vois pas pourquoi.
Abib, il est bien aussi. Moi, j'aime bien Abib.
Mais nous, on est dans la bienveillance ici. On aime tout le monde.
On préfère Pascal quand même, les gars.
Oui.
En plus, on va aller voir des canons, on entraîne, c'est à côté, impeccable.
Tout est toujours comme ça, hein, alors que tu viens de finir ta tournée gazeuse. Pensez quand t'avais récupéré. Dans un instant, les GG du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? Vous l'avez entendu. Mais tout de suite, les GG. Antoine Dupont n'a pas joué hier. On attend qu'il revienne enfin de sa blessure au genou à la fin du mois, mais en revanche, il a quand même fait le show sur le terrain.
Oh, quelle percée de Picou intérieur pour Dupont! Le premier essai français! Sur ce ballon écarté, cette balle un petit peu approximative récupérée par Picou.
Incroyable.
En revue, une accélération fulgurante de Picou et la remise intérieure au niveau de 22 mètres, Antoine Dupont. L'essai pour la France, signé Antoine Dupont. Une minute de jeu, le côté fermé, Bakatawa qui décale Teddy Thomas, le côté barre au-dessus et l'équilibriste, le magicien, c'est lui, c'est Antoine Dupont qui vient mettre le premier essai, 5-0 pour la France.
RMC, les GG sur le buzzer.
Ça, c'était le Dupont joueur, il nous manque, hein, 8 mois qu'on ne l'a pas vu sur les terrains avec les crampons, mais on l'a revu hier. Donc je vous le disais, c'était à la mi-temps du Stade Toulousain, Stade Français, à Ernest Vallon. Les visiteurs, les Parisiens, menaient 10-3 dans le choc des collideurs du top 14 à la mi-temps. Quand d'un coup, on a eu un petit clip vidéo qui s'est lancé. On voit Antoine Dupont se rendre au stade, encouragé par des supporters toulousains qui l'attendent avec un stylo. Il finit par apparaître en vrai sur la pelouse hier, au milieu des flammes, un rideau de fumée. Il y a une animation avec des smartphones en tribune. Là, on voit le président du club et son agent sportif qui l'attendent à un petit pupitre où on voit le logo du Stade Toulousain à côté d'un logo, un autre, AD9-2031 pour Antoine Dupont, numéro 9, prolonge jusqu'en 2031. Des t-shirts avec cette inscription sont commercialisés à la boutique du club. Dupont, tout sourire, signe son contrat, puis prend le micro et la parole devant le public.
Vous le savez tous, je pense, c'était un rêve d'enfant pour moi de porter ce maillot un jour. Et c'est mon rêve éveillé d'adulte de poursuivre l'aventure ici. C'est encore plus spécial pour moi de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Vous me manquez beaucoup et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai des crampons aux pieds. Merci à tous et allez le stade!
On espère aussi le revoir avec crampons au pied. Grosse mise en scène pour une prolongation. C'est du jamais vu dans le rugby. Toulouse s'est finalement imposé, je le dis quand même, 29-17 face aux Parisiens et leader du top 14 ce matin. Les GG, je vous pose la question ce matin. C'est un sujet qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais l'actualité va nous permettre peut-être de l'approfondir. Le produit Dupont, entre guillemets, prend-il plus de place que le joueur? Christophe Cessieux.
Oui, c'est normal parce qu'il n'y a pas de joueur Dupont en
Pascal.
Ce moment depuis 8 mois.
Je vais dire non.
Jérôme.
Oui, mais c'est normal.
Julien Beneteau.
Non.
32-16 et WhatsApp 06 12 424 424. Christophe,
Oui, non, c'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, effectivement, il joue pas au rugby en ce moment. Donc, mais à la différence de joueurs qui sont blessés, et tu te dis, voilà, bon, il est blessé, il reviendra dans 8 mois ou dans 9 mois, tu n'entends plus parler de ces mecs-là pendant 9 mois. De temps en temps, tu prends de leurs nouvelles pour savoir comment ils vont. Mais Dupont, c'est pas un joueur lambda. C'est la star du rugby français. Le rugby, c'est le sport numéro 2 en France. Et le rugby a trouvé en Dupont son porte-étendard, son symbole, sa star. C'est la première fois qu'on a une star de ce niveau-là dans ce jeu-là. Il y a eu des Chabal, des Dominici, des Jean-Pierre Rive, Michalak, mais il n'y avait pas du tout le niveau de Dupont.
Bah là, ce qu'on a vu hier, c'est inédit.
On est dans un système aujourd'hui hyper marketing,
starification.
La starification du joueur. Et ça, on est en plein dans cette époque. Mais il n'y a pas que le rugby que ça touche. Hein. Il y a quand Mbappé, on en fait des tonnes pour la remise
bon
du soulier d'or.
C'est le bon parallèle.
Dembélé pour son ballon d'or. Il fait la tournée des grands ducs. Il va dans son ancien club. Wembanyama, c'est un peu la même chose. Je veux dire, on est dans ce monde-là aujourd'hui.
Le rugby est depuis de nombreuses années maintenant professionnel. Donc c'est quoi de plus normal en fait? Moi en fait, dans ta question, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sous-entendu. Tu m'arrêtes, Georges, si je dis une connerie, mais j'ai l'impression que tu as envie de nous faire dire que Dupont, il a le cigare ou
ça fait réagir. Christophe avait fait un capitaine il y a quelques semaines là-dessus sur il y a eu du Dupont bashing parfois. Hugo Mola l'a dit, le manager du Tottenham.
Parce que le rugby n'était pas habitué à ça.
Le produit Dupont est beaucoup exposé en ce moment. Il va chez Apple, il va aux États-Unis.
C'est la
mise en scène a pas mal agacé aussi.
Dans l'esprit de tout le monde, le rugbyman, le champion de rugby, il devait pas être fiancé avec Miss France, mais avec Miss Camping. C'était un peu ça à l'époque. Tu vois, il y avait le côté rural.
Mais ça, c'est fini depuis très longtemps. Des joueurs au stade, le casque sur la tête, la mise en scène, les sorties, leur façon de travailler, tout se rapproche d'un autre sport qui est très connu qui s'appelle le football, valeurs différentes, mais dans le market. Évidemment qu'il faut mettre en avant le produit Dupont. C'est le meilleur joueur du monde qui vient jouer,
et en plus,
qui prolonge dans son club de cœur, qui est en France, dans son pays, et qui est l'un des meilleurs clubs au monde.
Christophe, je vais te couper l'herbe sous le pied, pardon, préciser. Non, mais en fait, vous vous rendez compte, le meilleur joueur français du rugby moderne s'est engagé jusqu'en 2031 dans le club qu'il a rejoint il y a combien d'années maintenant qu'il a rejoint 5 ans 6 ans ou plus, Christophe, le Stade Toulousain. Vous vous rendez compte, cette fidélité. Moi, ce joueur,
c'est rare dans le sport.
C'est rare,
ça
existe pas dans le sport. Il y a plus de fidélité que dans le foot, c'est pas.
Mais malgré tout, ça commence à bouger, le rugby. Oui. Ça commence à bouger. Alors certes, il est dans le meilleur club du monde. Il a été, à un moment donné, nommé meilleur joueur du monde. Il reste dans le meilleur club du monde, parce que le Stade Toulousain est le meilleur club du monde. On peut raconter ce qu'on veut, c'est la stricte vérité. Donc, au contraire, moi, je trouve que ce joueur, on est impatient de le revoir, bien entendu, sur les pelouses. Et j'ai comme l'impression qu'au travers de ta question, il s'est un peu égaré. Non, je pense qu'il s'est préparé conséquemment. Je pense qu'il a fait son devoir. Je pense qu'il est extrêmement professionnel. Et c'est un garçon que tout le monde rêverait d'avoir à sa table. Parce qu'il est désarmant de simplicité.
Ça fait réagir. La mise en scène hier a beaucoup fait réagir. Je voudrais qu'on accueille Philippe au 32-16 qui nous appelle. Salut Philippe.
Oui, bonjour, messieurs. Bonjour.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le produit Dupont est en train de prendre peut-être trop de place par rapport aux joueurs?
Alors je tiens à préciser tout de suite que j'ai un immense respect pour le joueur,
etc. Tout le monde, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Moi, je connais pas l'homme, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce qu'il est vraiment et ce qu'on lui fait faire. La melonite du Stade Toulousain n'a plus de limite, c'est insupportable. Insupportable. C'est quoi le prochain truc? Parce qu'on a Dupont à Cannes, on a Dupont avec Miss Monde.
Mais ça, c'est pas Toulouse.
Tu les as pas approchés. Moi, j'ai entraîné le club de Toulouse, le TFC. J'ai vu Hugo Mola œuvrer avec son staff. Et j'ai vu les joueurs du stade. Eh ben, tu vois, je suis désolé. Ils sont tous sauf le melon pour moi.
Tu n'as pas aimé la mise en scène, Philippe.
La mise en scène de la signature d'un contrat, mais c'est du rugby Instagram. Elles sont où les valeurs du rugby?
Et alors, c'est la moderne.
Mais c'est quoi la prochaine étape? Il va filmer sa nuit de noces ou quoi? C'est quoi ce délire? Non mais sérieux les mecs. Non mais
vous les supporters du Stade Toulousain, Philippe.
Philippe, alors, tu l'avais vu la série que le Stade Toulousain avait consacrée au Stade Toulousain il y a un an ou deux. C'était un peu dans le même esprit.
Non, hein, oui, mais bon, ça, on s'en fout. Mais c'est la Netflixisation du rugby maintenant. C'est hyper chiant. Voilà, qui gagne la Coupe d'Europe, qui gagne le top 14, ils en ont l'habitude.
Ils le font.
Et surtout qui gagne la Coupe du Monde, bordel.
Voilà. C'est intéressant ce que nous dit Philippe. Et franchement, le discours de Philippe, on le retrouve pas mal sur WhatsApp aussi, sur les messages qu'on reçoit, sur une mise en scène un peu critiquée hier. En fait, c'est un peu le rugby qui perdrait un petit peu de ses valeurs là-dedans.
C'est quoi les valeurs?
Attendez les gars, je dis juste que on touche à quelque chose d'un peu sensible quand même. Faut pas le sous-estimer, Bennett.
Mais quand on regarde les images hier, il y avait 3 personnes autour du pupitre. Je pense que Didier Lacroix et Antoine Dupont, s'ils avaient pu s'en passer.
Et il y avait son agent aussi.
Et il y avait l'agent sportif. Voilà. J'ai l'impression quand même que l'agent sportif, il était content qu'il y ait cette mise en scène, etc. Antoine Dupont, il n'est pas forcément à l'aise avec ce genre de truc.
Je pense que ça a été voulu par le club quand même, Bennett. Hein.
Peut-être,
c'est pas l'agent sportif qui décide.
Non, mais c'est même sûr. Mais tu vois le président, il est tranquille, il sert vite la main, et ils s'en vont, etc. Après, aujourd'hui, il le signe jusqu'en 2031. Je pense qu'ils vont le payer très cher. Donc il va falloir que ça rentre de l'autre côté. Donc qu'ils vendent des t-shirts à côté, à droite, à gauche, qu'ils vendent... Voilà, c'est le meilleur joueur du monde. Il re-signe dans le plus grand club du monde. Je ne trouve pas qu'il s'en ait fait des caisses. Souvenons-nous de Seko Fofana à Lens, quand il a prolongé à la fin d'un match au milieu du stade avec le truc. Tout le monde trouvait ça.
Bien sûr, Bennett. Oui, mais le football n'a pas les mêmes valeurs. En tout
mais
cas,
c'est quoi dans les différences aujourd'hui?
Le foot, le rugby n'a pas les mêmes valeurs. Je suis désolé, je suis d'accord avec toi. Mais Lens, dans le foot, c'est plutôt un club qui a des valeurs.
Beaucoup d'amoureux qui se rapprochent du rugby disent, on reçoit des messages, que dans le rugby, il y a cette individualisation, cette starification, ça ne correspond pas à ce qu'on attend du rugby.
Ils sont obligés.
Combien d'années c'est déjà comme ça.
On a eu Dan Carter peut-être quand il est venu.
Ils sont obligés de s'adapter avec Antoine Dupont. Antoine Dupont a des demandes que aucun autre joueur français n'a connu.
D'avoir un message caché derrière cette question. Moi, ce qui m'a interpellé hier, c'était de voir. J'avais l'impression que c'était une réunion entre deux marques, le Stade Toulousain et la marque Antoine Dupont. C'est un moment.
C'est pas une impression. Tu as raison.
Et ça, c'est nouveau. Je dis pas que ça me dérange. Je dis que c'est nouveau, qu'il faut le.
Il y a une image qui pour moi est constante depuis que j'aime ce sport qu'est le rugby, donc depuis toujours, c'est qu'ils s'en mettent plein la pipe. Il y a personne qui se défile pendant le match, ok. Et à la fin, tous autant qu'ils sont, ils n'oublient pas un seul de se serrer la main, de se faire des accolades, alors qu'ils ont les arcades défoncées, alors qu'ils sont cuits carbo, ok. Donc ça, cette image-là, elle est jamais démentie au rugby. Donc ça veut dire que c'est encore un sport qui est noble par sa simplicité. Et si le Stade Toulousain est meilleur que les autres, rien n'empêche aux autres de les rattraper.
Et si dans ce cadre-là, Antoine Dupont est autant un produit qu'un joueur, pas de problème. N'oublions pas qu'Antoine Dupont, l'année dernière, il fait une opération ultra casse-gueule, c'est qu'il vient jouer avec le rugby olympique pour gagner une étape et faire gagner une médaille à notre pays. Ça nous a pas gêné qu'il danse, qu'il apprenne à danser avec. C'est pas ses crèmes.
Ouais, mais c'est
ça
collectif. Moi, ça m'avait un peu gêné.
C'est pas ça, Jérôme.
Ça,
Jérôme. Il a, heureusement qu'il a eu la médaille d'or au bout du truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché.
Il a fermé le clapet à tout le monde, il a gagné.
Oui, mais c'est sûr. Mais c'est pas passé aussi.
Là, aujourd'hui, il joue pas. Il est en train de créer un contrat de ouf avec sa marque à lui. Tout le monde attend qu'une chose. Tout le monde n'attend qu'une chose. C'est qu'il revienne.
Voilà, exactement.
Mais il est attendu au coin du bois.
Il sera à Marcoussi, en tout cas.
Maintenant, il faut qu'il redevienne joueur.
Il sera à Marcoussi cette semaine. Alors, pas pour jouer, évidemment, il n'est pas dans le groupe pour affronter les Box, mais il continue son programme de reprise au plus près du 15 de France. Donc, je pense qu'on va continuer de parler d'Antoine Dupont. Prochain jour.
Évidemment.
Le Midi Olympique titré vendredi. Antoine Dupont, influenceur. Donc, sur l'influence qu'il a sur le rugby aussi actuellement. Il n'est pas là, mais il est là. Allez, dans quelques instants, on joue les amis dans les grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Julien Beneteau, à ligne droite, tout de suite on joue.
Jeudi, je vais
les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes, les amis, soyez attentifs. Beneteau, Duprat.
Oh.
Pinault, Cessieux. Je vous rappelle la nouveauté. La question impossible, activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 2 points. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. On accueille tout de suite nos auditeurs, Christina et Nicolas. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Christina, c'est toi qui as appelé en première, donc je te laisse choisir ton équipe. Duprat, Beneteau ou Pinault, Cessieux?
Christina.
Christina. Et donc Nicolas, tu es avec Duprat, Beneteau. Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'aujourd'hui,
allez, Nicolas.
Il y a un smartphone Stellar X5S édition Chamonix Mont Blanc à gagner de la marque Crosscall.
La question impossible est vraiment impossible, non?
Eh ben c'est...
Alors, c'est chacun dans notre discipline. Quelle est la discipline de Christophe Cessieux?
Tu découvriras. Allez, c'est parti. Question à une seule réponse, les amis. Quel joueur a franchi la barre des 200 buts en Liga ce samedi? En Liga, quel joueur a franchi la barre des 200 buts en Liga?
Griezmann.
Griezmann. Oh, Christophe.
Là, je suis impardonnable là.
Alors là, les fouteux là, les.
Oh, je suis impardonnable, franchement.
Bah alors, on passe qu'à nous.
Ah, je suis impardonnable.
Il est tellement content, Christophe. J'ai trouvé un truc foot. Tu le genre de sa life. Allez, 1-0 pour l'équipe Pinault Cessieux. Question à une réponse. Allez, tiens, on va rendre hommage au Moscato Show. Qui a dit aucun pilote ne pourrait survivre là-bas. Peu importe ce que vous choisissez, Hamilton ou Leclerc ou qui que ce soit d'autre, ils auront énormément de difficultés. Qui a dit ça?
Pagenaud.
Un pilote de Formule 1. Non, c'est une réponse, donc c'est. Je l'ai dit, question à une seule réponse.
Bon. Un pilote contemporain qui court aujourd'hui.
Contemporain. Aucun pilote ne pourrait survivre là-bas, peu importe que vous choisissez Hamilton ou Leclerc, qui que ce soit d'autre, ils auront énormément de difficultés. Un ancien coéquipier d'un champion du monde.
Alonso.
Non, 5, 4, 3, 2, 1. C'était Sergio Perez. Propos de Max Verstappen. Et oui, impossible d'être le numéro 2 de Verstappen. On reste à 1-0.
Tu précises le contexte.
Pour Pinault, c'est sûr. Si j'explique tout le contexte, en fait, je te donne la réponse.
Oui.
Il faut donner la réponse avant la question. Question auditeur, c'est pour vous, Christina. Allez, et Nico. Nicolas.
Allez, Nico.
Jeu de rapidité. Qui est le leader du top 14 ce matin?
Nicolas Toulouse.
Ouais, Toulouse.
Bien, Nico.
Un partout, Christina, il faut être attentive.
Bien, Nico.
Un partout.
Elle a du monde derrière elle, Christina. Elle pose la question.
On enchaîne. Question à une réponse. Les Blacks ont battu l'Irlande cette nuit sur le score de 26-13. Mais où s'est déroulé
Chicago.
La rencontre? Chicago, Bennett.
Bien joué, Bennett.
Bennett. Ouais. Match en plus,
j'attendais, je savais pas s'il avait demandé
3-1 ou 2-1.
2-1 pour l'équipe du Duprat Beneteau. Question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Combien de points a marqué Wembanyama depuis le début de la saison en 5 matchs? Le plus proche l'emporte.
100.
100 dit Pascal.
120.
120 dit Christophe, c'est juste pris. Allez les gars.
135.
95.
La réponse est 151. Donc c'est Bennett.
Bravo, bien Bennett. Oh, Bennett, il a le feu.
Mais t'aurais été nul au juste prix.
Je suis nul, Jérôme.
Il faut faire quand t'es le dernier, tu donnes juste un ou de plus ou un de moins. C'est ça la tactique.
Bah oui.
Ça fait 3 pour l'équipe Duprat Beneteau. Question auditeur, c'est pour vous, Christina et Nicolas. Soyez attentifs.
Allez, Nico.
Quel joueur français de foot a vu son retour sur les terrains repoussé par une nouvelle blessure?
Paul Pogba.
Nico.
Attention, Pascal, petit carton jaune.
3-2.
T'as pas le droit d'intervenir. Attention, question à élimination.
Déjà, c'est chiant, ça.
2 points en jeu. Question à élimination. Chacun répond à tour de rôle, une erreur et vous êtes éliminé. On en a parlé tout à l'heure, tout le monde a de grands souvenirs par rapport à ça. Citez-moi les 15 titulaires du 15 de France face aux Blacks en 99. Jérôme Pinault.
Richard Dourte,
c'est bon. Pascal Duprat.
Bernat Sall,
c'est bon. Christophe.
Emile Ntamack,
titulaire? Bien sûr. Bennett.
Pelouse.
Fabien Pelouse, bien sûr, avec le 4 sur le dos. Jérôme Pinault.
Christophe Dominici,
ça passe. Pascal Duprat.
Christophe Lamaison,
le 10, bien sûr. Christophe.
Abdel Benazi.
Abdel Benazi, numéro 5 sur le match, bien sûr. Bennett.
Ibanez.
Raphaël Ibanez, qui était capitaine, bien sûr. Jérôme Pinault.
Ouh là là, c'est chaud là.
Là c'est chaud.
5, 4.
Serge Betsen.
3. Serge Betsen, c'est pas bon, éliminé, Jérôme Pinault. Pascal Duprat.
J'ai peur de dire une connerie, mais. Pilier, faut que je trouve.
5, 4, 3.
D'intrance.
D'intrance. Non, pas bon, éliminé.
Ah merde.
Christophe Cessieux.
Olivier Magne.
Olivier Magne, portait le 7, bien sûr.
On rappelle juste que Christophe a commenté, il est dans mon équipe.
Et alors, mais... la mémoire parfois peut défaillir. Hein.
Surtout à cet âge assez avancé.
Bennett. 5, 4, 3.
Tourner.
Tourner. Numéro 3, c'est bon, bien sûr, ça passe. Christophe
bien,
Cessieux.
Bien.
Comment ?
Galtier.
Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France actuelle.
C'est lui qui est
numéro
9 ?
Titulaire, bien sûr, c'était numéro 9.
Ah oui.
Bennett. Il en reste deux.
Allez, Bennett.
Attends, on a dit, ok, tu m'as dit Bernard Saldominici. Et
si tu ne trouves pas, Christophe a gagné. Il en aura plus.
Je sais.
5.
La maison.
4. 3. 2. 1.
Brusque. Mais c'est pas lui.
Terminé. Deux points en plus pour l'équipe. Pino, c'est
super. Bon, le mec, il a commenté le match. Il a l'affiche.
Il a l'affiche. Il reste
Garbajosa. Ah merde.
Christophe Juillet et Cédric Soulette. Mais franchement, vous en avez donné quand même 12 sur 15. Ouais. Bien joué.
Enchaîne.
4 points pour Pino, Cessieux. Question auditeur, Christina et Nicolas. C'est pour vous.
On a marqué deux points là sur le
contre qui le PSG joue mardi en Ligue des Champions.
Nico.
Bayern.
Bien, Nico. Bien, Nico. T'es là, t'es en place, Nico.
Nico
bien.
C'est Nicolas qui a dit
là, Nico, il l'a dit avant, bien sûr.
4 partout.
Comment 4 partout ?
4 partout, bien
n'importe
sûr.
Quoi,
question à une seule réponse, les GG. Comment s'appelle le nouvel entraîneur de la Juventus ?
Spalletti.
Spalletti.
Le mec est
c'est nous. Meilleur. Pas fini. Non, c'est pour Bennett. Bennett Duprat.
C'est nous, oui. Jérôme Pinault,
c'est qu'on joue là. Allez, c'est pas fini.
J'ai la réponse, ça, Spalletti.
Question à une seule réponse. Perpignan a marqué son premier point. Bonus défensif en top 14 hier. Contre qui ?
Po. Ah, c'est moi. Ah non, c'est moi. Ah, tu déconnes. Non.
Question auditeur. Christina et Nicolas, c'est pour vous. Qui a rejoué cette nuit au Brésil après un mois et demi d'absence ?
Neymar.
Oui, Nicolas
Neymar, ça fait 6-5.
Et c'est terminé.
La question c'est impossible. Bon, on a gagné.
Question impossible, activée par Christophe. Christophe, active la question impossible pour terminer. Attention, jingle.
Non, j'ai un avis, mais je... Voilà, allez-y.
Question impossible pour Christophe Cessieux.
Triche pas, Chris.
Si jamais tu gagnes, c'est gagné. Si tu perds, votre équipe va perdre.
Attends, je déclenche la mienne après.
Non. Attention, il n'y a que Christophe qui peut répondre.
C'est une règle incroyable. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds,
aux Jeux Olympiques de Mexico en 68.
Oh, ouais.
Avec combien de médailles d'or est repartie la France ?
Ouais, c'est bon.
C'est moi, je crois que je le sais.
Une médaille d'or ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est une mauvaise réponse, c'était 7. Donc victoire de l'équipe Duprat Beneteau.
Facile, Bennett. Bravo Bennett. Bravo Nico.
Félicitations Nicolas.
Moi j'ai servi à rien.
Christina, on est désolé, c'est un édition Chamonix Mont-Blanc de la marque française Cross Call. Félicitations à toi.
Bon choix Christina.
Jouez au jeu du sport sur RMC avec CrossCall, marque française de smartphone conçue pour les passionnés d'outdoor. Rendez-vous sur crosscall.com.
Merci les grandes gueules du sport. Ah là là, Christophe, en tout cas panache. Moi je souligne le panache de Christophe qui du coup n'est pas infaillible alors qu'il a commenté Mexico sur 38. Merci Christophe, merci Jérôme Pinault, merci Bennett, merci Pascal Duprat.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine dès 9h de samedi pour les grandes gueules du sport. Mais restez avec nous tout de suite, c'est les Paris RMC. À tout de suite.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.